l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. En raison de la prolongation de la crise sanitaire causée par le Covid-19, le nombre de touristes ayant visité l'île de Jeju, l'un des sites touristiques les plus populaires en Corée du Sud, a considérablement diminué. En particulier, en décembre 2020, où une nouvelle vague de cette épidémie a frappé le pays du matin clair, 620 000 voyageurs ont visité cette île, alors que ce chiffre avait dépassé 1,2 million pendant la même période en 2019. Le nombre de touristes sur l'île de Jeju est passé de 15 millions en 2019 à 10 millions l'an dernier. Il s'agit d'une diminution de 33%. Cela fait craindre l'industrie touristique de la région. Or, beaucoup de ces voyageurs ont estimé que la diminution des touristes avait rendu leurs excursions plus satisfaisantes. L'an dernier, l'Office national du tourisme de Jeju a effectué un sondage sur les voyages à Jeju. Il a d'abord interrogé 800 personnes qui projetaient de visiter l'île de Jeju entre septembre et novembre 2020. Et 54% d'entre eux, soit 430 personnes, ont réellement visité l'île. Ensuite, l'organisme touristique a interrogé ses voyageurs de nouveau. Selon ce sondage, au début, 37% des personnes interrogées se sont montrées positives quant à la qualité des voyages sur l'île. Mais après leur voyage, le taux de celles qui ont estimé leur voyage positif a augmenté de 20 points pour atteindre 57%. Comme raison pour lesquelles elles ont jugé leur voyage satisfaisant, elles ont évoqué ceci. La diminution des voyageurs a permis de mieux profiter des sites touristiques. Grâce à la baisse des touristes, le déplacement était plus facile ou on a attendu moins longtemps pour visiter des sites touristiques ou des restaurants célèbres. En revanche, il y a des sondés qui se sont montrés négatifs vis-à-vis de leur voyage. Comme raison, ils ont indiqué l'inquiétude sur la pandémie ou les précautions à prendre pour éviter toute contamination. D'autre part, la crise sanitaire a augmenté la préférence des touristes pour les activités en extérieur sur l'île. 79% d'entre eux sont allés apprécier la nature. Avant leur voyage, 75% des interrogés ont répondu qu'ils projetaient de le faire. Également, plus de voyageurs ont visité de jolis cafés ou bars alors qu'ils ne l'avaient pas prévu. Pour ce qui est du budget de leur voyage, les sondés ont prévu en moyenne 400 000 won, soit 300 euros. Mais en réalité, ils ont dépensé 360 000 won, soit 270 euros. En coréen, il y a l'expression « samshiseki » qui signifie les repas que l'on prend trois fois par jour, le matin, le midi et le soir. Mais selon une étude, en raison du Covid-19 qui a bouleversé notre vie quotidienne, cette expression pourrait devenir désuète. L'entreprise alimentaire sud-coréenne CJ Jeiljedang a analysé les mégadonnées sur les menus et les modes de cuisson de 4700 personnes pour prévoir les principales tendances de la culture culinaire cette année. D'après cette étude, l'une de ces tendances est la disparition des trois repas réguliers par jour. L'épidémie a fait disparaître les limites entre les repas du matin, du midi et du soir. Car en raison du télétravail et des cours scolaires qui se déroulent en ligne, les gens restent chez eux plus longtemps. Si l'an dernier, les collations de minuit ou les goûters, appelés parfois le quatrième repas, ont émergé comme une nouvelle tendance, cette année, on prévoit que les gens devraient prendre leur repas d'une manière flexible selon les situations. Ainsi, le repas pris dans la matinée qui sert à la fois de petit déjeuner et de déjeuner, le repas servant à la fois le déjeuner et de dîner et les collations de minuit en plus d'autres aliments devraient devenir plus habituels. En effet, ces tendances se manifestent déjà plus souvent qu'auparavant. Et le taux de consommation des home meal replacement, ou substituts de repas maison en français, et des plats livrés ou à emporter a progressé. En particulier, le développement des substituts de repas maison a changé la notion de repas fait maison. Elle s'est élargie du concept de repas avec des plats que j'ai cuisinés moi-même à la maison à celui de la table que j'ai dressée. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens présentent comme repas maison des tables qu'ils ont mises avec des substituts de repas maison, des kits prêts à cuisiner ou des plats qu'ils ont fait livrer. En outre, le nouveau coronavirus a fait entrer dans la cuisine les jeunes qui préféraient manger au restaurant. L'année dernière, seuls les foyers d'une seule personne et les jeunes qui habitent chez leurs parents ont fait la cuisine chez eux plus souvent qu'auparavant. Ils avaient tendance à présenter les plats qu'ils ont préparés sur leurs réseaux sociaux. Cela permet de prévoir que les kits prêts à cuisiner et les aliments prêts à consommer proposés par les restaurants devraient être appréciés davantage. Un représentant de la firme alimentaire a expliqué que la consommation des substituts de repas maison serait considérée comme la meilleure option pour un repas pour ceux qui n'ont pas de temps libre. Selon lui, leur demande devrait donc s'envoler cette année. Ces derniers temps, il a beaucoup neigé en Corée du Sud. Par la suite, une polémique autour de la neige a récemment été provoquée sur Internet. Le terme le plus évoqué sur les réseaux sociaux à ce sujet était « destructeur de bonhomme de neige ». Ce dernier est un néologisme désignant une personne qui démolit des bonhommes de neige que d'autres personnes ont fabriqués. En ligne, des vidéos prises par des caméras de surveillance dans lesquelles ces individus détruisent des bonhommes de neige ou des photos des bonhommes détruits ont été partagées par des centaines de milliers de personnes. Face à ces images, beaucoup d'internautes expriment leur fureur et se livrent à des débats sérieux en la matière. Le détonateur de ces discussions est une vidéo publiée par un café situé à Daejeon. Dans cette vidéo, la nuit, un homme regarde une sculpture de neige sous forme d'Elsa, le personnage principal du dessin animé « La Reine des Neiges » situé devant cet établissement. Puis, il regarde autour de lui et soudainement, il donne un coup de poing pour la détruire. Cette image a été diffusée en ligne et plus de 10 000 personnes y ont laissé des commentaires. Or, deux sortes de réactions se sont affrontées. Certains ont condamné cet acte en indiquant qu'il est horrible de voir une personne s'amuser à détruire un objet que quelqu'un d'autre a soigneusement fabriqué avec beaucoup d'efforts. Par contre, d'autres soulignent qu'il ne s'agit que des farces puisque les bonhommes de neige ne sont pas des êtres vivants. Alors pourquoi tant de gens s'indignent-ils contre la destruction de bonhommes de neige ? Cela témoignerait du fait que la société sud-coréenne est devenue plus sensible à la violence. Les gens considèrent le fait de blesser les autres pour se distraire comme un acte de violence et s'emportent. Les spécialistes analysent que la destruction de bonhommes de neige dépasse la limite d'un acte pour évacuer le stress. C'est une mauvaise manière d'exprimer sa colère. Selon eux, il est possible que ces destructeurs éprouvent un certain plaisir en démolissant des bonhommes de neige qui auraient donné un sentiment d'accomplissement à leur créateur et qu'ils se sentent meilleurs qu'eux. Comme leurs actes ne sont pas destinés aux êtres vivants, ils n'éprouvent guère de sentiment de responsabilité ou de culpabilité. Cependant, ils risquent de devenir de moins en moins sensibles aux actes de destruction. Si cela se répète, ils peuvent devenir progressivement agressifs.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 27 janvier, vous êtes en compagnie de Koh Jong-san. La semaine dernière, Min, qui habite à Daejeon, est allée dans une librairie avec sa fille. Au début, elle avait prévu d'acheter seulement un livre. Mais en regardant ici et là dans l'établissement, elle a trouvé d'autres publications qui l'intéressaient. Finalement, elle est sortie de la librairie avec 7 livres. Selon Min, quand elle achète des livres sur Internet, elle ne prend que ceux qu'elle a déjà sélectionnés. Mais quand elle se rend dans une librairie physique, elle finit par en acheter d'autres. Néanmoins, elle aime bien y aller avec sa fille, parce que pour celle-ci, cela constitue l'occasion de se familiariser avec les livres. Ce jour-là, cette librairie était remplie de clients au point qu'une longue queue s'étendait devant la caisse. La situation était pareille dans une autre librairie de la ville. Une trentaine de clients feuilletaient des livres dans cet établissement avant de les acheter. Ces derniers temps, les librairies locales à Daejeon ont retrouvé de la vitalité après une longue attente. Les consommateurs de la région affluent dans ces établissements qui étaient à l'agonie sous l'influence des librairies en ligne et des grandes librairies dont le siège est à Séoul. Ce changement est dû à une mesure de soutien prise par la municipalité de Daejeon dans le but d'aider ses commerces locaux. Si on y achète des livres avec la monnaie locale, baptisée Ontong Daejeon, on bénéficie d'une remise en argent de 30% sur le prix des livres achetés. Du coup, si on achète une publication à 10 000 won, 3 000 won sont remboursés immédiatement. Cette disposition concerne les librairies dont l'adresse enregistrée à la mairie est dans cette ville. Les grandes librairies ou celles en ligne ne sont pas incluses. La municipalité avait mis en place ce système d'octobre à décembre 2020. Comme il a fait bondir le chiffre d'affaires des 156 librairies locales, elle a adopté de nouveau cette année. Les librairies de la région accueillent cette mesure à bras ouverts. Ils disent que leur chiffre d'affaires moyen a beaucoup augmenté. Le week-end, les ventes ont quelquefois presque doublé par rapport à l'année dernière. Mais l'important, selon elle, ce n'est pas la hausse immédiate du chiffre d'affaires, mais le fait que les citoyens se rendent en personne dans les librairies et s'habituent à voir des livres. Selon eux, il est important de poursuivre une telle mesure à long terme afin que les citoyens gardent des livres près d'eux et prennent davantage plaisir à lire. De leur côté, les citoyens se montrent également favorables à cette disposition. Certains indiquent que si ce système ne dure qu'une courte période, ses effets disparaîtront aussitôt. Un matin de la semaine dernière, la rue était verglacée par endroits à cause de la neige qui était tombée la veille. Devant un bâtiment situé dans l'arrondissement de Jongno à Séoul, le livreur Yang Yongjo a arrêté sa moto. Il a pris un sac plastique blanc. Après avoir vérifié l'adresse, le nom du destinataire et le nombre de paniers repas à livrer, il est monté au quatrième étage de l'immeuble. Il a frappé à la porte et crié « Vos paniers repas sont arrivés !» Un instant après, quelqu'un a répondu de l'intérieur « Merci, déposez-les là-bas s'il vous plaît !» Les paniers repas que Yang a livrés font partie d'un service de restauration fourni aux citoyens défavorisés par le centre de services de soins SOS géré par la municipalité de la capitale. Une personne peut en bénéficier 30 fois par an. Depuis le second semestre de l'année dernière, tous les 25 arrondissements de la ville offrent cette prestation. Actuellement, 65 compagnies participent à ce programme et 80% d'entre elles sont des entreprises sociales. En fabriquant des paniers repas, celles-ci essaient de rechercher des valeurs sociales. Elles embauchent des citoyens en difficulté ou utilisent des ingrédients bio. Avec l'augmentation des commandes, beaucoup d'entre elles ont eu des difficultés à cause du coût de livraison. Car le tarif proposé par les entreprises de livraison ordinaire est en moyenne de 3 500 won, soit 2,60 euros. Or, le prix unitaire d'un panier repas est de 7 800 won, et il est donc difficile de payer plus de 2 000 won pour la livraison. De plus, les livreurs commencent leur travail à 10 heures du matin, mais les paniers repas doivent arriver au destinateur avant. Afin de régler ce problème, deux modèles de livraison ont été testés. Le premier était la livraison conjointe. Le Conseil de concertation des livreurs pour les plateformes de Séoul s'en est chargé. Une vingtaine de livreurs de 40 à 69 ans ont livré des paniers repas dans 6 arrondissements. Yang est l'un d'entre eux. Il a participé à ce projet comme un petit boulot. Mais maintenant, comme les destinataires du repas, qui sont principalement des personnes âgées, l'accueillent chaleureusement, ils éprouvent une grande satisfaction. Avant le renforcement de la distanciation sociale en décembre dernier, ils discutaient souvent avec eux. Selon les fabricants des paniers repas, le rôle des livreurs ne se limite pas à la livraison. Ils servent aussi d'intermédiaires de communication. Ils transmettent des messages de remerciement des bénéficiaires aux fournisseurs de repas. Et si ces derniers sortent de chez eux et doivent annuler la livraison des repas, ils le disent aux livreurs qui l'annoncent aux fabricants à leur place. L'autre modèle de livraison consistait à faire livrer à pied par des habitants de chaque quartier qui ont besoin de travail. Ces livreurs ont inséré une carte d'état de santé dans les paniers repas destinés aux seniors qui habitent seuls. Sur cette carte, il y avait une liste de contrôles sur la santé, l'humeur et l'alimentation des bénéficiaires pour qu'ils les cochent selon leur état de santé. Lors de la récupération des récipients de paniers repas à usage multiple, les livreurs ont vérifié ces cartes. S'il y avait des réponses inquiétantes, ils l'annonçaient aux fonctionnaires qui les prennent en charge. Selon les experts, leurs visites ont permis, d'une part, aux bénéficiaires de repas de se tenir moins isolés et d'autre part, aux livreurs de venir en aide à d'autres habitants de leur quartier qui sont en difficulté. À Incheon, dans le centre de formation en continu de l'arrondissement de Namdong, il y a un médecin pas comme les autres. Il s'appelle Choi Byung-nam. Ses patients ne sont pas des hommes, mais des jouets. Ce réparateur de jouets, âgé de 72 ans, travaille dans le service de réparation situé dans ce centre. Ces deux dernières années, il a réparé plus de 6000 jouets. Réparateur n'est pas le premier métier de Choi. Avant, il était enseignant dans un lycée spécialisé. Il a enseigné la réparation des équipements d'avion pendant 37 ans. Lorsqu'il a pris sa retraite en 2011, un ami lui a fait une proposition intéressante. Puisque Che a des capacités pour réparer des objets, il lui a recommandé de réparer des jouets pour enfants. C'est ainsi que sa seconde vie a commencé. Au début, il a publié sur Internet une annonce pour les réparations gratuites de jouets. Avec le temps, les demandes se sont multipliées et certaines connaissances de Che lui sont venues en aide. Ayant appris cette situation, la mairie de l'arrondissement de Namdong a offert un espace pour ouvrir un centre de réparation. En outre, elle le soutient depuis 2019 dans le cadre du projet d'embauche des personnes âgées qu'elle poursuit. Actuellement, 10 réparateurs s'occupent des jouets en panne qui viennent de tout le pays. Che a dit que quand il voyait des enfants qui reçoivent leurs jouets réparés, cela lui rappelle le temps où il enseignait aux élèves du lycée. Il espère qu'il pourra continuer son deuxième travail dans la mesure où il en est capable.
Bonsoir à toutes et à tous. La comédie d'action Collectors de Park Jong-bae avec Lee Jae-woon et Cho Woo-jin est une sorte d'Indiana Jones qui viendrait explorer, voire voler, les trésors archéologiques coréens. Course-poursuite, vol de momies, de couronnes de bijoux et d'autres frivolités déjà vues dans les classiques du genre sont au programme, excepté l'effet de surprise et le grain de folie nécessaire pour faire décoller les stéréotypes. Le toujours sémillant Lee Jae-woon interprète un voleur de tombes. Il sait même les renifler de loin et refourgue sa camelote à des collectionneurs d'antiquités, si cela existe. Ici, il est sur la piste d'une statue de Bouddha en or, le nec plus ultra de la profession. Mais il a de la concurrence avec des voleurs liés à une grosse compagnie de marché noir des antiquités. C'est la lutte des classes version voleur de tombes. Lee Jae-woon n'a plus qu'à réunir une équipe de voleurs d'élite pour débusquer le précieux trésor avant la concurrence. Le problème du scénario évite de trouver ce qui pourrait bien empêcher cette bande d'acteurs frétillants et dynamiques de parvenir à ses fins. Le public aussi aimerait presque qu'ils échouent, tellement l'histoire est cousue de fil blanc dès le départ. Le risque des films basés sur un nombre important d'acteurs et d'accumuler lourdement des clichés autour de personnages customisés à outrance. C'est un peu le cas ici. Par exemple, l'actrice Shin Ye-sun, bien charmante, mais simple potiche tout au long du film. La vedette, Lee Jae-woon, se contente de poser avec son sourire en biais, car il sait que le film est, avant tout, un showcase de ses différents profils destinés à ses fans. L'excellent comique Lee Woon-hee est le seul à tirer son épingle du jeu. Sa frimousse d'ours mal léché aux yeux de serpent alcoolisé fait merveille. Dashimawa Lee, son autre nom, est connu pour ses rôles importants dans Die Bad, Three Extreme, Crying Fist ou encore M. Malheureusement, quand on est dans des sous-rôles de comique, comme dans l'inénarrable Macaulay Girl, il sort de temps à autre de sa boîte de zébulon, comme dans la série à succès des Along with the Gods. Bien qu'il se donne à fond dans Collectors, il ne peut rien changer à son rôle par trop limité. Finalement, ce film est surtout un symptôme de l'expansion de l'archéologie scientifique en Corée du Sud. En effet, l'archéologie a d'abord été une histoire de chercheurs d'or et de voleurs qui ont rempli les musées européens pendant des années. Les Coréens n'étaient pas sur les rangs à l'époque. L'archéologie scientifique, celle qui ne s'intéresse pas qu'aux trésors ni qu'aux accessoires des princes et des princesses, est apparue en Europe au début du XXe siècle. En Corée du Sud, pour des raisons politiques et historiques, le chemin a été plus long. Mais grâce à une nouvelle génération de chercheurs et d'historiens, et grâce à la nouvelle industrie touristique, le pays du matin clair a commencé à sérieusement creuser pour retrouver les vestiges du passé. Fini donc les textes historiques alambiqués et vénérés comme un culte. Voilà venu l'ère des traces concrètes du vécu des gens du passé. Le film tente, malgré tout, une vieille habitude, une politisation de l'archéologie en allant en Chine chercher des histoires. Mais il se rétracte très vite et se recentre sur Séoul, notamment sur les tombes royales de Solong. Malheureusement, ce n'est qu'un décor de carton-pâte. On aurait bien voulu voir les vrais lieux. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, le film a commencé à creuser un trou dont on n'est pas prêt de voir le fond.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Excellente soirée à tous.